Vous êtes sur RTL.
France.
RTL soir 18h17, l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez l'ancien président de la République, François Hollande. François Hollande qui publie chez Glénat Jeunesse, leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes.
Bonsoir François Hollande.
Bonsoir Thomas Soto.
Bienvenue dans RTL soir. Ce livre, on va largement en parler dans quelques minutes. Et les jeunes, justement, ont beaucoup de questions à vous poser. Mais d'abord, les questions d'actualité. Le gouvernement a donc décidé d'utiliser samedi l'article 49.3 pour faire adopter sa réforme des retraites à l'Assemblée. Avait-il le choix? Pouvait-il faire autrement?
Le 49.3 est prévu par la Constitution. Donc ce n'est pas une procédure qui serait contraire à l'esprit de la République. Mais tout dépend du circonstance et du sujet.
Et dans ces circonstances, alors?
Et là, face à une tentative de blocage, il y avait plusieurs options, soit de laisser le débat se continuer. C'est plutôt ce que j'avais fait lorsqu'il y avait eu une obstruction par la droite sur le mariage pour tous, vous vous en souvenez, ça avait duré des mois. J'avais considéré qu'il fallait laisser le débat, même si c'était effectivement pénible à vivre pour les parlementaires qui défendaient le texte et pour la ministre à l'époque, Christiane Taubira. Mais même si la droite faisait procédure sur procédure, je pensais que sur une question de cette importance, il fallait que le débat continue.
Donc là, le couper aussitôt, c'est une erreur?
Je pense qu'il y a deux raisons d'utiliser le 49.3. Il y en a une première quand il n'y a pas de majorité. C'est ce qui, d'ailleurs, a été justifié de la part de Michel Rocard. De nombreuses reprises,
ou
y compris
de
Manuel Valls, sous mon autorité, de recourir au 49.3 parce qu'il n'y avait pas de majorité sur deux textes. Et puis il y a une autre modalité du 49.3, c'est d'arrêter un débat. C'était arrivé là aussi à Dominique de Villepin lorsqu'il était Premier ministre sous Jacques Chirac sur le CPE. C'est arrivé à Alain Juppé et chaque fois, ça a suscité beaucoup d'interrogations. Parce que même si on ne doit pas justifier l'obstruction, et je ne l'ai pas admis lorsque c'était la droite qui le faisait sur le mariage pour tous, le débat fait partie de la vie parlementaire. Il y aurait eu peut-être d'autres procédures à utiliser dès le début de l'ouverture de ce débat, ce qu'on appelle le temps programmé, c'est un peu compliqué. Mais là, je pense qu'il n'y avait pas d'urgence absolue. Des élections municipales vont avoir lieu. Faire voter le texte par la procédure de 49.3 avant les élections municipales ou de le faire voter par un vote parlementaire, puisque le gouvernement a une majorité, quelle différence? Sauf que là, ça crée une frustration, une colère de plus, et aussi le fait que le débat n'ait pas pu porter sur les articles les plus importants, c'est-à-dire la valeur du point, et puis aussi la gestion du futur système. Donc c'est dommage pour la clarté et donc pour les Français.
Le faire passer au milieu d'un conseil des ministres sur le coronavirus, c'est une mauvaise manière ou ça s'appelle simplement faire de la politique?
Faire de la politique, c'est pas forcément faire de mauvaise manière.
C'en est une, là?
Je pense que il ne faut pas donner l'information forcément en avant, en amont donc du processus, mais là, la confusion des deux sujets pouvait effectivement prêter à discussion. Le samedi aussi n'était pas forcément le meilleur jour pour en faire l'annonce, mais ça fait partie, j'allais dire, du détail. Ce qui est important et ce qui est plutôt dommage, c'est que sur un sujet tel que les retraites, qui intéresse tous les Français, toutes les catégories, toutes les générations, il n'y ait pas eu le débat que les organisations syndicales attendaient, que les Français souhaitaient, pour avoir toute la transparence et la clarté sur le futur système.
Ce recours au 49.3, il change quoi? Est-ce qu'il fragilise la réforme? Est-ce qu'il fragilise le gouvernement? Est-ce qu'il fragilise Édouard Philippe? Est-ce qu'il fragilise personne?
L'expérience, y compris la mienne, c'est que utiliser le 49.3 ne fait pas bénéficier à celui qui l'utilise d'une popularité supplémentaire, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est plutôt l'inverse?
C'est plutôt l'inverse, parce que c'est toujours regardé comme ou une épreuve de force, un passage en force, y compris contre sa propre majorité, lorsque elle n'est pas docile, ou contre le Parlement lui-même, dès lors que le débat n'a pas eu lieu jusqu'au bout. Mais je ne veux pas non plus justifier l'obstruction, parce que je trouve que c'est aussi une forme de détournement de la vie parlementaire. Faire en sorte qu'on ne pose pas les questions, mais qu'on utilise des artifices, c'est dommage. Donc moi, je ne veux pas qu'on puisse justifier l'obstruction.
Partagé, en quelque
non,
sorte.
Je pense que ce que voulaient les parlementaires qui menaient cette obstruction, c'est qu'il y ait du temps. Ils n'acceptaient pas qu'il y ait cette pression. Mais je pense que c'est un argument qui ne passera pas d'avoir utilisé l'obstruction pour faire passer le 49.3, ou plus exactement pour faire passer le texte sur les retraites au 49.3.
Vous avez longtemps été député, François Hollande. Si vous l'étiez encore, est-ce que vous voteriez demain les motions de censure qui seront débattues?
Il se trouve que je ne suis pas député, donc je ne suis pas dans cette situation, mais je n'approuve pas cette réforme des retraites. Donc, vous avez donc la réponse.
Donc la réponse est oui. Et vous, président, est-ce que vous changeriez de Premier ministre après les municipales, compte tenu du contexte général ?
Ça m'est arrivé de le faire, puisque président de la République, j'ai eu des élections municipales au cours de mon mandat, que ces élections municipales n'avaient pas été...
Il ne vous échappe pas que je vous demande ce que vous feriez aujourd'hui.
Oui, j'entends bien. Mais je vais vous donner ma réponse. Moi, face à des élections municipales qui avaient été décevantes, alors même que Jean-Marc Ayrault avait fait très bien son travail, avait été d'une loyauté totale, j'ai pensé qu'il fallait changer de Premier ministre.
Le 49-3 démontre l'impuissance du gouvernement à répondre aux interrogations sérieuses et légitimes des parlementaires à propos de ce projet incomplet, très approximatif, aux multiples inconnus, dénonce l'intersyndicale qui appelle à des mobilisations demain mardi. On interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes en France pour cause de coronavirus. Est-ce qu'il est bien raisonnable d'appeler à manifester ?
Cette question, moi je l'ai eu à traiter aussi au moment où il y avait les attentats. Et nous avons laissé les manifestations se produire, même si nous prenions toutes les précautions. Alors, ce n'est pas comparable, parce que là, il y a des risques sanitaires. Mais je pense qu'on ne peut pas, au nom d'une précaution légitime par rapport à un virus, interdire la manifestation.
Sur cette crise, vous trouvez que le gouvernement gère bien la situation ? Il fait le job, comme on dit ?
Je pense que sur une question sanitaire de cette ampleur, qui touche l'ensemble des pays, le consensus est absolument nécessaire. Et tout sujet polémique serait, à mon avis, contre-productif. Donc, il faut faire confiance aux autorités sanitaires, il faut faire confiance au gouvernement qui dispose des informations nécessaires, qui quelquefois peut prendre des décisions difficiles, mais c'est son devoir, et je ne pense pas qu'il faille entretenir ni une espèce de psychose, parce que je pense que ça irait au-delà de ce qui est nécessaire, ni une forme de légèreté qui, demain, serait regardée comme répréhensible.
Reporter les municipales, c'est quelque chose qui vous paraît souhaitable aujourd'hui ?
Non. Je pense qu'il n'y a rien qui, aujourd'hui, justifie un tel report.
Autre crise, elle est humanitaire, celle-là, c'est celle des migrants. Aujourd'hui, un petit garçon est mort au large de l'île de Lesbos lors du naufrage d'une embarcation de fortune. Le 2 septembre 2015, la découverte d'Elan, ce petit Syrien de 3 ans, découvert mort noyé sur une plage de Bodrum en Turquie, avait ému le monde. Aujourd'hui, pardon, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de honte, François Hollande ?
Mais moi, je ne l'ai pas, ce sentiment. J'ai depuis longtemps alerté sur la situation en Syrie. Quand j'étais président, les forces françaises avaient à intervenir. Une partie même était présente de manière discrète, mais sur le terrain. Et nous avons pu agir contre le terrorisme, et notamment contre Daesh.
Oui, mais là, sur cette crise, où est l'Europe ?
Non, mais sur cette question, je pense qu'il y a eu, de la part d'abord du président des États-Unis, un retrait, dont les Russes et les Turcs ont largement profité, au détriment des populations civiles. Et depuis plusieurs mois, et je le dis à chaque fois que je suis interrogé, même si je ne viens pas souvent sur les micros le dire, mais chaque fois que je suis interrogé, je le dis, attention à ce qui se passe en Syrie et aussi dans la partie kurde de la Syrie. Il y a 1 million de personnes qui sont chassées. L'aviation du régime de Bachar el-Assad, appuyée par les Russes, commet chaque jour des massacres. Chaque jour, il y a des enfants, des femmes, des hommes qui meurent.
Et ces dernières heures, c'est la Turquie qui bombarde et la Russie qui laisse faire.
Maintenant, c'est la Turquie qui le fait pour se protéger des attaques contre les Russes et pour défendre aussi un certain nombre de groupes que je n'approuve pas. Mais l'Europe, même si elle parle, elle est absente. Elle est absente parce qu'elle n'a pas de défense.
Et la Grèce dénonce, pardon, mais sur le volet humanitaire, la Grèce dit l'Europe nous laisse seule avec cette situation explosive à Lesbos notamment.
Alors ça, c'est une autre question qui est liée forcément à la première. C'est qu'est-ce que l'on fait lorsqu'il y a des afflux de réfugiés ? Et la seule façon de réguler, c'est de créer des centres, notamment sur les îles grecques, pour accueillir les réfugiés. Et pas forcément pour les repousser, comme ça peut être le cas. De discuter, de négocier avec les Turcs, pour le gouvernement turc, pour éviter ces transports.
Mais ça ne fonctionne pas, François Hollande. Jean Ziegler était à votre place il y a quelques jours. Il parlait de la honte de Lesbos en expliquant les conditions de vie, les conditions de déchéance humaine de ces personnes là-bas, des femmes, des hommes, des enfants, et l'Europe qui ne bouge pas.
Oui, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut accabler l'Europe, mais en l'occurrence...
C'est ce que disent les Grecs aujourd'hui.
Oui, mais enfin, c'est le gouvernement grec qui, aujourd'hui, qui n'est pas le même que le précédent, qui repousse les réfugiés, qui les rejette à la mer. Et je n'accepte pas aussi ce type de comportement. Le gouvernement précédent, celui de Tsipras, accueillait autant qu'il était possible et demandait l'aide de l'Europe, qui lui était portée peut-être de manière insuffisante. Mais aujourd'hui, l'Europe, elle doit faire en sorte qu'on puisse contrôler les frontières. Donc, vous voyez, ce qui est le cas d'ailleurs, des bateaux pour y parvenir, mais aussi aider le gouvernement grec et le gouvernement bulgare à faire en sorte d'accueillir des réfugiés. Mais si on veut éviter qu'il y ait des réfugiés, parce que c'est ça l'objectif, si on veut éviter qu'il y ait des réfugiés, il faut régler la crise syrienne. Et qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai été toujours très réservé sur la manière avec laquelle on a parlé au président Poutine. J'ai eu affaire au président Poutine. Il ne connaît que le rapport de force. Si on lui laisse penser qu'il peut agir, il agit et il va jusqu'au bout. Il promet toujours qu'il ne fera rien, il bombarde. Et ça s'est fait à Alep, ça se fait maintenant à Idlib et c'est la même méthode. Donc si on veut un moment que ça s'arrête, il faut parler fort au président Poutine et il faut lui menacer de sanctions. Il n'y a que ça qu'il comprend. Sinon, il avancera. Et comme Erdogan est dans le même état d'esprit, vous voyez ce qui est à craindre pour les prochains jours.
Dernière question de cette première partie, on vous retrouve juste après le rappel des titres. Elle concerne les César. Est-ce que vous auriez quitté la salle, vous, au moment où Roman Polanski a eu son César de meilleur réalisateur ?
Tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'étais parlementaire. Je ne suis pas artiste non plus de cinéma. Donc
vous avez vu que c'est un sujet sur lequel qui hystérise beaucoup et sur lequel tout le monde a un avis.
Ne me demandez pas de faire ce qui n'est pas dans mon rôle. Mais je comprends que certains, en l'occurrence certaines, aient été choqués par le fait qu'on ait pu remettre un prix à Roman Polanski, alors même que Roman Polanski avait jugé bon, je crois, à raison de ne pas venir à la cérémonie des Césars.
Merci François Hollande. Vous restez avec nous dans un instant. Maureen Dor nous rejoint pour parler avec vous de Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes, ouvrage que vous publiez chez Glénat Jeunesse. À tout de suite.
RTL Soir, 18h28.
Sur les réseaux sociaux, réagissez à l'actualité avec le hashtag RTL Soir.